Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h ici à Paris. Une demi-heure consacrée à l'actualité américaine à présent, avec Haïti à la une, où l'on attend de connaître le nom de celui qui présidera le conseil présidentiel de transition. L'élection est prévue par les membres de ce conseil dans une heure et on en parlera avec le directeur de l'agence Alter Press dans un instant. Reportage également au Pérou pour essayer de faire le point sur les travaux en cours à Chancey où la Chine est en train de construire un immense port. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez des incertitudes qui planent toujours sur la campagne sucrière en Guadeloupe.
Eh oui, on pensait le conflit définitivement réglé depuis vendredi dernier, mais voilà que les planteurs ne sont pas contents. Ils affirment que le directeur de l'usine aurait modifié le protocole d'accord avant de le signer. Explication à suivre.
On vous retrouvera dans une vingtaine de minutes pour développer ce sujet. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
Anne Contner.
Et avant de revenir sur tous ces dossiers, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le chef de la diplomatie américaine effectue une nouvelle tournée au Proche-Orient.
En provenance des pays du Golfe et avant d'arriver en Israël, Anthony Blinken était ce matin en Jordanie où il devait être reçu par le roi Abdallah. Le chef de la diplomatie américaine a dit qu'il espérait une réponse favorable du Hamas pour un accord de trêve dans la bande de Gaza. Trêve assortie de la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Le Hamas, dont une délégation est au Qatar, prépare toujours sa réponse. Et puis, autre visite actuellement en Israël, celle du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il s'est entretenu avec son homologue Israël Katz.
En lien avec ce conflit, deux personnalités françaises de la France insoumise sont entendues par la police.
Oui, la France insoumise, du nom du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ces deux femmes ont reçu ces derniers jours leur convocation suite à des plaintes pour apologie du terrorisme concernant leur prise de position sur les attaques du Hamas le 7 octobre. Ce sont la patronne des députés insoumis, Mathilde Panot, ainsi que la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan. Depuis ce matin, elles sont entendues à Paris dans les locaux de la police judiciaire. Auparavant, elles ont pris la parole devant leurs partisans réunis pour dénoncer ce qui constitue, selon elles, des attaques contre la liberté d'expression. Reportage RFI d'Aurélien Devernois.
Dans quelle démocratie une candidate à une élection européenne est-elle convoquée en pleine campagne électorale ?
Atteinte à la démocratie, censure et même police politique, c'est en victime d'un gouvernement voulant bâillonner les voix défendant Gaza que les insoumis et leur soutien se sont affichés. Mais pas question de baisser la tête, selon Rima Hassan.
Ça se retourne un peu contre ceux qui veulent me faire taire, c'est-à-dire que plus ils m'attaquent et plus j'ai le sentiment qu'il y a du soutien.
Reste que côté politique, les insoumis sont bien seuls. Si quelques élus, comme la députée écologiste Sandrine Rousseau, sont là à titre individuel, l'ex-NUPES est globalement aux abonnés absents, ce que déplore la tête de liste insoumise aux européennes, Manon Aubry.
Je regrette en effet qu'il n'y ait ni représentant du Parti communiste ou du Parti socialiste. Et ça veut peut-être dire quelque chose d'un manque de courage politique.
LFI peut en revanche compter sur les syndicats, notamment étudiants, dont certains membres font eux-mêmes l'objet de poursuites similaires. Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante.
C'est la même chose que ce qu'on voit aussi notamment au niveau du mouvement étudiant, avec une criminalisation et une répression des étudiants mobilisés, notamment à Sciences Po, qui nous inquiète énormément.
Les insoumis qui comptent d'ailleurs sur la mobilisation de la jeunesse estudiantine pour relayer leur combat et pourquoi pas obtenir des voix leur faisant pour l'instant défaut aux élections européennes.
Reportage signé Aurélien Devernois.
La Commission européenne ouvre une enquête sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Oui, des réseaux qui, dans la perspective des élections européennes, sont soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation. Récemment, certains dirigeants de l'Union européenne se sont inquiétés de possibles manipulations de l'opinion par la Russie.
Et il en était question justement lors d'une réunion entre les ministres français, allemands et polonais chargés de l'Europe.
Oui, tous trois viennent d'appeler à redoubler d'efforts pour faire face aux opérations de désinformation venues de l'étranger, notamment de Russie. Viginum, organisme de lutte contre ces ingérences, a révélé l'hiver dernier l'existence d'un réseau appelé Portal Combat, chargé de diffuser la propagande russe aux États-Unis et sur le vieux continent. Un réseau qui, Olivier Four, ne cesse de s'agrandir, signale Viginum dans un nouveau rapport.
Portal Combat continue de tisser sa toile en Europe et à l'étranger. Entre le 20 et le 26 mars dernier, Viginum a détecté 31 nouveaux noms de domaines intégrés au réseau pro-russe et appartenant au système de désinformation Pravda. En février 2024, la France, l'Allemagne et la Pologne avaient publiquement dénoncé la multiplication d'attaques informationnelles ciblées et coordonnées contre les démocraties européennes. Qu'importe, Portal Combat a maintenu ses activités et s'est étendu vers d'autres zones géographiques, y compris en Asie, au Japon, à Taïwan et dans les deux Corées. En Europe, hormis le Luxembourg et Malte, tous les pays de l'Union sont désormais concernés. Nouvellement touchés, la Suède et la Finlande, qui ont rejoint l'OTAN en 2023 et 2024, mais aussi l'ensemble des pays des Balkans et la Grèce, les trois pays baltes et la Moldavie. En Afrique, Viginum a détecté des activités en Centrafrique et au sein de l'Alliance des États du Sahel, mais l'organisme n'évoque pas le cas du Mali. À ce stade, ces tentatives de pénétration russe au Sahel donne des résultats très limités avec seulement une poignée d'abonnés sur les chaînes Telegram associées au site Pravda au Burkina et au Niger.
Olivier Four de la cellule Info Vérif de la rédaction.
Au Canada, un oléoduc qui passe mal.
Oui, c'est demain 1er mai qu'entrera en service Trans Mountain, l'oléoduc agrandi qui va relier le centre du Canada à la côte ouest. Depuis 10 ans, cette extension alimente la polémique au Canada. La pollution, la population autochtone ainsi que les écologistes dénoncent les risques pour l'environnement. Myriam Berber.
Après des années de retard, le chantier de Trans Mountain prend fin. Il a permis de dédoubler sur toute sa longueur, plus d'un millier de kilomètres, l'oléoduc construit dans les années 50. Deux fois plus gros, ce nouveau pipeline va transporter le triple de pétrole de la province de l'Alberta et la Colombie-Britannique vers la côte Pacifique. Une fois en activité, il pourra acheminer 890 000 barils par jour. Un projet contesté depuis ses débuts par les écologistes et les communautés autochtones de la région, le peuple des Premières Nations du Canada qui vivent le long du tracé s'inquiète notamment des risques de marée noire avec l'augmentation du trafic maritime. Pour les défenseurs de l'environnement, cet oléoduc est contradictoire avec l'engagement du gouvernement canadien de réduire de plus de 40% les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2030. Le coût financier du projet fait également polémique, on l'estime à plus de 23 milliards d'euros.
Myriam Berber, des Philippines à la Birmanie. Des records de chaleur sont actuellement battus dans des parties entières de l'Asie du Sud-Est, poussant les autorités à fermer des écoles et des millions d'élèves à rester à la maison.
Et puis on va se pencher sur ce rapport publié en France concernant l'exposition des enfants aux écrans.
Oui, rédigé par des experts, ce rapport vient d'être remis au président Macron. Aram Beng, bonjour.
Bonjour.
Parmi les propositions à retenir, Aram, l'interdiction des écrans pour les moins de 3 ans et les téléphones portables pas avant 11 ans.
Tout à fait. Et les auteurs de ce rapport parlent d'une hyperexposition subie des enfants. Et pour reprendre la main sur le temps passé devant les écrans, le groupe d'experts préconise une trentaine de propositions. Parmi celles-ci, l'interdiction des écrans pour les enfants de moins de 3 ans, des téléphones portables au moins de 11 ans et pas des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Dans les détails, les spécialistes recommandent d'autoriser aux enfants de 3 à 6 ans un accès fortement limité aux écrans avec des contenus éducatifs et toujours accompagnés d'un adulte. Et pour ce qui est des jeunes adolescents, le rapport conseille l'octroi d'un téléphone portable sans Internet et seulement à partir de 13 ans, ils peuvent détenir un smartphone mais sans accès aux réseaux sociaux et ce, jusqu'à l'âge de 15 ans. Selon les auteurs du rapport, les réseaux sociaux sont des facteurs de risque de dépression ou d'anxiété chez les plus fragiles. Par ailleurs, les experts s'inquiètent du niveau alarmant de l'exposition des enfants à la violence et à des contenus pornographiques.
Merci à Aram Beng pour ses explications sur l'hyperconnexion subie des enfants. On l'appelle ainsi. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants. Nous sommes tous hyperconnectés, plus ou moins, n'est-ce pas, Anne ?
Absolument, mais parfois ça peut quand même être utile. Merci Gilles Moreau. Et merci à tous d'être avec nous. On va parler du continent américain et d'Haïti jusqu'à 13h30, temps universel.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Une nouvelle étape de la transition politique est attendue aujourd'hui en Haïti. 5 jours après son entrée en fonction, le Conseil présidentiel de transition doit choisir son président. Et nous sommes en ligne pour en parler avec notre confrère haïtien Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Le vote est censé commencer dans un peu moins d'une heure maintenant.
Tout à fait. Les préparatifs sont en cours. Le vote se déroule en présence de la presse et des représentants des parties prenantes de l'accord politique qui a mis en place le Conseil. Ce vote, attendu depuis le 25 avril dernier, jour de l'installation du Conseil présidentiel de transition, se révèle important, même si l'élu ne devrait jouer qu'un rôle de coordinateur. Les réseaux sociaux n'ont pas cessé de s'agiter autour de cette étape. Des craintes de marchandage sont exprimées, mais le Conseil promet de jouer la carte de la transparence.
On peut lire aussi sur votre site aujourd'hui, Godson, une lettre de la Conférence des pasteurs haïtiens que vous résumez de cette manière. Le Conseil ne bénéficie pas d'un chèque en blanc.
La Conférence des pasteurs estime en effet que le Conseil aura à faire ses preuves. Les membres de cette entité, particulièrement ceux-là qui ont une part de responsabilité dans la catastrophe actuelle du pays, devront résister à toute tentation liée à des intérêts particuliers et agir en fait pour stopper la descente aux enfers d'Haïti. Pour l'organisation, l'organe présidentiel devra se montrer ouvert afin d'embrasser les segments de la population qui n'ont pas soutenu cette formule. Et dans ce sens, elle invite à mettre en place rapidement des mécanismes pour faciliter l'intégration d'autres secteurs à l'accord signé par les parties prenantes du Conseil.
Et en attendant les premières décisions du Conseil présidentiel de transition, la population, elle, continue de souffrir, de subir la violence des gangs et notamment des personnes handicapées qui ont été chassées de leur foyer.
On ne le savait pas, mais la semaine dernière, des gangs armés ont attaqué un groupe de personnes handicapées qui étaient logées au foyer Saint-Vincent au centre-ville de Port-au-Prince. Le foyer est en même temps un centre d'enseignement pour enfants handicapés. Cette violente attaque, a poussé les responsables du foyer Saint-Vincent à rechercher d'autres abris pour ses enfants handicapés. Et le foyer Saint-Vincent, soulignons-le, offre ses services à la communauté haïtienne depuis 1945.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouvera mardi prochain, comme toutes les semaines. Et d'ici là, tous ces articles dont vous nous avez parlé sont à lire sur votre site alterpress.org. Ailleurs dans la presse haïtienne, on revient sur l'apparition d'un chef de gang dans un reportage du média américain CNN. Vit-elle l'homme innocent, l'un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les reporters de la chaîne l'ont rencontré chez lui, à Tabar. C'est un quartier de Port-au-Prince, Marine Lebeg.
Oui, Gazette Haïti se fait le relais du reportage diffusé sur le site web de CNN. On peut donc lire l'intégralité de l'entrevue entre le journaliste américain et le chef de gang Kras Barrier, l'un des groupes armés alliés qui ont plongé Haïti dans l'anarchie. Gazette Haïti accompagne son article de la photo de la vie de recherche de Vitellum Innocent. Ses yeux sont écarquillés, son sourire hagard. Elle laisse apparaître l'image d'un homme frénétique, peut-on lire, mais en personne, il projette une image différente, celle d'un homme puissant, entouré de disciples armés, affirme le journaliste de CNN.
Oui, car Vitellum Innocent est bel et bien un chef de gang, il faut le rappeler, recherché par la police nationale haïtienne pour enlèvement contre rançon, meurtre, viol, vol et destruction de biens.
Oui, sanctionné par les Nations Unies, le FBI a mis sa tête au prix de 2 millions de dollars. Mais le chef de gang apparaît serein sur la vidéo. Il expose calmement sa vision du futur d'Haïti. Il évoque l'alliance des gangs, exige une place à la table des négociations et menace de l'obtenir par d'autres moyens si on ne lui accorde pas. Il finit par offrir une visite de son territoire aux journalistes américains comme un véritable politicien, écrivent nos confrères, qui ne nient pas l'aspect polémique de leur entretien. Innocent ne nie pas les morts, les incendies criminels, écrit CNN, mais préfère parler de dommages collatéraux.
RFI, The World's Voices.
Nous sommes à l'Université de Columbia, à New York. Dans cette vidéo publiée par le New York Times, on voit des militants pro-palestiniens keffiés sur la tête se barricader à l'intérieur d'un bâtiment en bloquant les portes avec des chaises et des tables. Certains s'attaquent aussi aux vitres pour les briser. Columbia, au cœur du mouvement de protestation qui touche de nombreuses universités prestigieuses aux États-Unis, l'université a pris la décision de suspendre les manifestations. Mais dans la presse américaine, Marine Lebeg, des voix s'élèvent et assurent que manifester est une étape traditionnelle de la vie étudiante.
Oui, un ancien étudiant de l'université de Columbia prend la plume dans le New York Times. Son époque à lui, c'est 1968, les manifestations contre la guerre au Vietnam. Forcément, les événements actuels ne peuvent que lui rappeler ces années étudiante et ses jours orageux, fatidiques et palpitants, écrit-il dans le journal. Du Vietnam à l'apartheid en passant par le meurtre de George Floyd, énumère l'auteur, les universités sont depuis longtemps des lieux de débat et d'enquête ouverte et parfois enflammées. Si l'université ne peut tolérer cette chaleur, continue-t-il, alors elle ne remplit pas sa mission première.
Marine Le Bec, on vous retrouve dans un instant. On va prendre la direction maintenant du Chili. Il est 13h15 en temps universel. Des patrouilles dans le sud du pays au Chili. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l'attaque contre des policiers. C'était samedi dernier. Elle a fait 3 morts. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose des circonstances de cette attaque. On ne connaît ni les assaillants ni leur mobile. En revanche, on peut rappeler qu'elle a eu lieu dans une région sous tension où un conflit oppose depuis des années des bandes criminelles au peuple mapuche autour de leurs terres ancestrales. Et pendant que la police enquête, la polémique enfle autour de l'avenir du directeur général de la police. A priori, il reste à son poste, Naila de Rouané.
C'est Gabriel Boric lui-même qui l'a suggéré. Ricardo Yáñez, le numéro 1 des carabiniers, ne devrait pas quitter son poste. Le président de gauche a ainsi manifesté son soutien total à la police suite à l'assassinat des 3 carabiniers samedi dernier. Une information judiciaire allait pourtant être ouverte dans quelques jours à l'encontre du directeur général de la police pour des délits et crimes commis lors de la crise sociale de 2019 quand Ricardo Yáñez était en charge de l'ordre et de la sécurité. Ce n'est pas le moment de faiblir ou de bouger les personnes clés, a déclaré la première ministre, pour justifier le maintien du général Yáñez alors que la police est en deuil. Une décision plutôt contradictoire puisque le gouvernement de Boric avait notamment décidé qu'aucun haut fonctionnaire ne pouvait rester en fonction après l'officialisation d'une enquête à son encontre. Dans le camp présidentiel, c'est le Parti communiste chilien qui s'indigne de cette décision, accusant le président Boric de céder face aux pressions de la droite. Mais ce n'est qu'une question de temps puisque l'ouverture de l'information judiciaire contre le général Yáñez aura bien lieu. Elle a été repoussée au mois d'octobre. Naila de Rouané, Santiago, RFI.
Et cette affaire fait la une de toute la presse chilienne, Marine Le Bec.
Oui, après l'assassinat des policiers, l'agenda de la sécurité se bloque, titre La Tercera. Le projet de sécurité du gouvernement chilien est au point mort depuis la mort de ces 3 carabiniers, considérés comme la plus grande attaque contre la police militaire en 97 ans d'histoire. Car si le projet de sécurité du pays était déjà complexe, cet événement tragique a ravivé les tensions politiques et encore brouillé le tableau, peut-on lire, selon le président du Sénat cité par le journal, alors que tout le pays sait que le meurtre de ces policiers est un acte terroriste, on ne peut pas appliquer la loi antiterroriste. Il faut mettre un terme à ces absurdités, a-t-il dit.
RFI, la radio del mundo.
Nous vous emmenons maintenant au Pérou, à Chancay sur la côte pacifique. Ville choisie par la Chine comme une étape de ses nouvelles routes de la soie, le pays est le premier partenaire commercial du Pérou et supervise à Chancay la construction d'un immense port censé connecter l'Amérique du Sud à l'Asie. Le gouvernement péruvien y voit une opportunité économique, mais sur place, tout le monde n'est pas du même avis et on entend de plus en plus de critiques. Reportage, Juliette Chénion.
Des dizaines d'ouvriers, des camions et des grues s'activent sur le sol poussiéreux. 1000 hectares de chantier au bord du Pacifique. Ici, à Chancay, une petite ville de pêcheurs pousse un mégaport supervisé par Gonzalo Rios, directeur général adjoint de l'entreprise étatique chinoise Cosco Shipping.
Nous allons aller voir maintenant les quais de chargement des containers.
Le futur port sera l'un des plus profonds d'Amérique du Sud.
Ce quai pourra recevoir 2 cargos triple E qui peuvent chacun porter 18 000 containers à charge pleine.
Au total, 15 quais sont prévus. Le chargement et le déchargement des conteneurs y seront automatisés.
Cela augmente la sécurité en minimisant l'intervention humaine.
À côté du quai, un bâtiment tout neuf surmonté d'une banderole rouge. On y lit en chinois des félicitations pour l'avancée du chantier. L'entreprise Cosco Shipping est en effet actionnaire majoritaire du port à 60%. Le reste appartient à une compagnie minière péruvienne. Objectif, gagner 10 jours de trajet en reliant directement l'Amérique du Sud à l'Asie.
Cela vaut pour le Pérou, mais aussi pour d'autres pays de la côte latino-américaine. Également pour une partie importante du Brésil, qui est mieux reliée au Pacifique qu'à l'Atlantique.
Coût total, 3,5 milliards $, car en plus des quais, il a fallu construire une zone d'embarquement sur les hauteurs de la ville, reliée au port par un tunnel, sans compter un parc industriel et un projet de zone franche, une promesse d'emploi pour les plus de 63 000 habitants de la région.
Le port a une capacité initiale d'environ 1 million de containers annuellement, ce qui va générer des chaînes de valeur, par exemple en lien avec le secteur agricole, mais aussi permettre l'importation de produits prémontés qui pourront être assemblés et distribués au Pérou.
À quelques centaines de mètres derrière la colline, Juan Cespedes range sa barque à moteur. Il pêche ici depuis 16 ans.
Avec le brise-lames qu'ils viennent de construire, on perd du temps. On doit faire tout un détour pour aller pêcher et il faut plus de carburant aussi. Mais ça, les grandes entreprises ne le comprennent pas. Elles ont donné de l'argent à quelques pêcheurs comme si c'était suffisant. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça va nous affecter pour toujours.
Les pêcheurs s'inquiètent aussi de devoir trouver leur place à côté des futurs cargos. Plus loin, sous son parasol, Livia, une habitante, approuve ce mégaport.
Ça me paraît bien. Il va y avoir plus d'habitants, plus de gens qui viennent nous rendre visite à Shanghai. Et aussi, ça peut améliorer l'économie.
Mais depuis le début des travaux, en 2018, des riverains se plaignent. Poussière, explosions régulières, murs fissurés dans les maisons. Crainte aussi de l'impact environnemental du projet. Vladimir Cantoral fait partie du collectif pour la défense de Shanghai.
De combien va s'améliorer notre indice de développement humain et de combien va augmenter notre revenu par tête à Shanghai? Qu'on me le dise. Pour le moment, ni l'État ni l'entreprise n'ont répondu à ces questions économiques qui doivent être résolues.
D'après lui, la commune n'est pas prête pour un tel projet. Faute d'investissement public et de planification sérieuse, la mairie, elle, a surplanché sur le dossier. Juliana Carizales Castillo, adjointe au maire.
C'est sûr que le temps avance et on va devoir apprendre à vivre avec la nouveauté, préparer les gens avec le soutien du ministère du Logement et de la Police nationale. Comment allons-nous recevoir les gens qui vont venir avec les bateaux? C'est toute une préparation.
Le port devrait être inauguré dans 7 mois en présence du président chinois Xi Jinping. Un lancement scruté de près par les États-Unis et l'Europe, préoccupé par l'influence croissante de la Chine en Amérique du Sud. Juliette Chénion, Shanghai, RFI.
Un reportage de notre correspondante au Pérou à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Aujourd'hui débutent les audiences de la Cour internationale de justice et l'instance va se pencher sur la plainte déposée par le Mexique contre l'Équateur après l'intrusion de policiers équatoriens au sein même de l'ambassade mexicaine à Quito. C'était au début du mois et la police y avait arrêté un ancien vice-président. Mexico demande à la Cour internationale de justice de suspendre l'Équateur tant que le pays n'aura pas présenté d'excuses publiques. De son côté, l'Équateur a présenté une requête. Le pays accuse le Mexique d'avoir protégé Jorge Glas, d'avoir empêché l'incarcération de cet ancien vice-président, condamné à 8 ans de prison par la justice de son pays. Et ce matin, Marine Le Bègue, les journaux des deux pays reviennent largement sur cette affaire.
Oui, Anne, pour le journal mexicain La Jornada, tout est la faute du président équatorien. Le déclin de l'Équateur s'est accéléré de manière alarmante depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Noboa l'année dernière, fustige le journal dans son éditorial. Un déclin que La Jornada attribue à la servilité rampante du chef de l'État à l'égard des États-Unis. Le journal voit dans l'invasion de l'ambassade mexicaine une démonstration de force par quelqu'un d'impuissant face aux factions criminelles, peut-on lire, et qui se soumet honteusement au bourreau historique de l'Amérique latine. Du côté de la presse équatorienne, La Hora se félicite de la requête déposée par son pays contre le Mexique. Le journal donne la parole à un ex-ambassadeur qui considère que cette plainte est une très bonne chose, car l'Équateur a également des choses à dire sur l'attitude du Mexique. Selon le diplomate cité par Laura, le Mexique aurait entre autres inventé un terme qui n'existe pas en droit international pour accueillir Jorge Glas en tant qu'invité. Bref, l'affaire va probablement s'étaler sur des années, rapporte El Universal.
Marine Le Bègue pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Démarrera pas. La campagne sucrière 2024 semble décidément faire du surplace en Guadeloupe.
On pensait le conflit définitivement réglé depuis la conclusion vendredi dernier d'un protocole d'accord entre planteurs, usiniers, États, collectivités locales. Mais patatras, voilà que tout est remis en cause. Le directeur de l'usine de Gardel ayant, disent les planteurs, modifié le protocole avant de le signer. Je vous propose d'écouter successivement Willem Monrose, porte-parole du collectif des planteurs, et Nicolas Philippot, le directeur de Gardel, tous les deux au micro d'Alexandre Houda.
On a encore une fois fait confiance
Et malheureusement, M. Philippot nous a envoyé un document qu'il a modifié. Il s'agit de l'article 4 et 5. Et là, ma foi, il y a une phrase qui ne nous convient pas du tout.
Le problème, il faut le lire différemment. On est sorti d'une réunion sur laquelle il y avait quatre engagements de prix. Un engagement de 500 000 euros de la région, un engagement de 500 000 euros de Gardel, un engagement de 900 000 euros de l'État et un engagement de 250 000 euros du département. C'est très simple à comprendre et c'est donc quatre engagements. Au lieu de réécrire ces quatre engagements sur un protocole, on ressort avec un document de 13 articles parlant de contrôle, parlant de diffusion de chiffres, parlant de tas de choses. Donc moi, je ne m'engage pas à signer un document avec 13 articles qui, pour une grande partie, ne me concerne pas et concerne l'interprofession, à savoir Iguacan. Donc je me contente de réécrire les trois engagements de Gardel et de les signer et voilà.
Rappelons que la campagne sucrière était censée débuter le 18 mars en Guadeloupe, direction la Martinique, dans la commune du François, sur la côte Est. Les habitants du quartier de Morne-Pitot n'ont plus d'eau au robinet. Plus de 1000 foyers seraient concernés, tout comme les crèches et les écoles, ce qui rend bien difficile la vie au quotidien. Reportage Christine Cupit.
À chaque fois, il n'y a pas d'eau.
Le calvaire dure depuis plusieurs jours déjà pour les habitants de Morne-Pitot. Pas d'eau potable dans les robinets. Certains habitants possèdent une citerne pour récupérer l'eau de pluie, mais cela ne leur permet pas d'exécuter toutes les tâches domestiques.
Et on ne peut pas faire à manger avec l'eau de la citerne, non? Tout simplement pour faire la lessive, laver la vaisselle, faire baigner et puis ça va. Machine à laver et... Les WC sont branchés sous la citerne, heureusement.
La municipalité du François a pris des mesures d'urgence pour remédier au manque d'eau à Morne-Pitot. Les pompiers ont mis à disposition trois cuves d'eau. La SME s'est engagée à fournir des bouteilles d'eau à la population. 90 packs ont déjà été distribués, en priorité aux personnes les plus vulnérables. Ce vendredi, une réunion publique est prévue avec l'Espace Sud, la SME et la ville du François, afin d'expliquer les raisons de ces coupures d'eau récurrentes à Morne-Pitot.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. De la musique, avant de se quitter, on écoute la chanteuse franco-chilienne Gatica. Elle vient de sortir son premier album, Altamar. Et voici le titre du même nom.
Primero, te escribo para decirte... No pienso seguir con el mismo cuento. Segundo, las cosas, la vida, mi vida, no duran. Tampoco puede durar la obstinada melancolía.
Obstinada melancolía. Es hora de viajar
en alta mar, seguir una ruta extraña que nunca había tomado. En alta mar, en alta mar. Andar por los surcos, descubrir veranos que nunca había visto en alta mar, en alta mar.
Altamar de la chanteuse Gatica à retrouver sur notre site rfi.fr. Elle était l'invitée de Musique du Monde il y a quelques temps. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi se termine pour aujourd'hui. Votre émission était réalisée ce mardi par Vincent Biteau et Anaëlle Lenoé. Vous restez avec nous dans quelques secondes de vive voix avec Pascal Paradou.
ce mardi sur RFI.
Faut-il décoloniser l'astronomie ?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Les plus grands observatoires sont construits sur des terres autochtones. À Hawaï, c'est sur le Mauna Kea, montagne sacrée pour les Hawaïens qui se mobilisent contre la construction d'un nouveau télescope géant. Enquête sur les terres contestées de l'astronomie.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.